Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. D'abord un mot pour les enfants. Aujourd'hui, c'est le 150e anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Pontmain, en Mayenne, en 1871. Il y avait la guerre entre la France et la Prusse. L'Allemagne n'existait pas encore, donc il y avait un autre pays qui s'appelait la Prusse, les Prussiens. Et les Prussiens avaient attaqué la France, et ils étaient en train de descendre de plus en plus loin, et les Français étaient de moins en moins rassurés, c'est le moins qu'on puisse dire. Surtout qu'ils entendaient dire ce que les Prussiens faisaient de mal sur leur passage. Et donc il y avait une peur bleue. Et la Sainte Vierge est venue apparaître à des petits-enfants dans un village qui s'appelle Pontmain. Ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque la Vierge Marie est apparue, seuls les enfants voyaient la Sainte Vierge. Monsieur le curé ne voyait pas. Les personnes âgées, les adultes ne voyaient pas, uniquement les enfants. Donc c'est les enfants qui ont raconté ce qu'ils voyaient sur le ciel. Et alors, ils voyaient des lettres, les unes après les autres. Et le message, c'est ceci. « Mais priez, mes enfants, mon fils se laisse toucher. Mais priez donc, mes enfants, la Sainte Vierge les réveille, mais priez, mon fils Jésus se laisse toucher. » C'est ce qu'on voit dans l'Évangile d'aujourd'hui. À Cana de Galilée, la Vierge Marie voit qu'il n'y a plus de vin. Les convives n'ont plus de vin. Un mariage sans vin, c'est horrible. Et donc, la Sainte Vierge agit. Et elle touche le cœur de son Fils. Et Jésus fait son premier miracle, son premier signe, parce que la Sainte Vierge lui demande. Et donc, si je dis ça, c'est parce que d'abord, c'est le 150e anniversaire de cette apparition, il faut se souvenir que la Sainte Vierge est venue il y a 150 ans, le 17 janvier 1871, à Pontmain. Et la Sainte Vierge a dit quelque chose. Et elle l'a dit il y a 150 ans, mais c'est toujours vrai. Et la France d'aujourd'hui, il n'y a pas des Prussiens en France, il y a d'autres réalités d'ailleurs. Mais en tout cas, il faut prier. Mais priez, mes enfants. Mon fils se laisse toucher. Il faut l'entendre. Donc tous les pères de famille, toutes les mères de famille, ils entendent que la Vierge Marie écoute la prière des enfants, que les enfants voient la Vierge Marie à Pontmain, pas les adultes. Pas les adultes, pas monsieur le curé. Les enfants voient la Vierge Marie à Pontmain. Pour les plus grands, la liturgie de ce dimanche est comme l'ultime déploiement de la fête de l'Épiphanie, qui, comme vous le savez, est triple. En effet, après la visite des rois mages, le baptême au Jourdain, voici aujourd'hui les noces de Cana. Partout, Jésus, il manifeste sa divinité, l'épiphanie, la manifestation de la divinité de Jésus. Mais à Cana, Jésus fait quelque chose de très particulier. Le catéchisme de l'Église catholique le souligne au numéro 1613, je le lis. Au seuil de sa vie publique, Jésus opère son premier signe à la demande de sa mère lors d'une fête de mariage. L'Église accorde une grande importance à la présence de Jésus aux noces de Cana. Elle y voit la confirmation de la bonté du mariage et l'annonce que désormais le mariage sera un signe efficace de la présence du Christ. Qu'est-ce que c'est qu'un signe efficace de la présence du Christ ? C'est un sacrement. C'est la définition d'un sacrement. Tout sacrement est un signe efficace du Christ. C'est le Christ qui agit à travers un signe, à travers un sacrement. Donc, la présence de Jésus à Cana confirme d'abord la bonté du mariage, même après le péché originel. Bien sûr. Et Jésus fait du mariage entre deux personnes baptisées un sacrement, c'est-à-dire un signe de grâce, un signe efficace qui sanctifie, un signe sanctifiant sur le chemin de la vie éternelle des époux. Ce n'est pas rien, c'est le moins qu'on puisse dire. À Cana, notre Seigneur institue un des sept sacrements de la loi nouvelle. Je parlerai donc pendant cette homélie du sacrement de mariage et je le ferai sous trois aspects. Premièrement, le sacrement est un fait. Deuxièmement, le sacrement de mariage est un fait qui se construit. Et troisièmement, nous sommes tous serviteurs du sacrement du mariage. Premièrement, donc, le sacrement de mariage est un fait. Dans cette ambiance de relativisme extrême, où le mariage est déprécié et mis de côté, il nous est bon de réfléchir sur la réalité même du mariage aujourd'hui. Il y a un avant et un après mariage. De même qu'avant l'ordination sacerdotale, le diacre n'est que diacre et pas prêtre, et qu'il devient prêtre après son ordination presbytérale, par l'imposition des mains de l'évêque et par la préface consécratoire, et seulement après ses rites. De même, avant leur échange de consentement, les fiancés ne sont que fiancés et pas encore époux. Après, ils sont époux et ils ne sont plus fiancés. Il y a un avant et un après échange des consentements. La volonté de se marier, qui est bonne, ne suffit pas. L'intention ne suffit pas. Se marier, c'est un acte de volonté, un engagement public scellé par des paroles, authentifié par une double signature devant témoin. Dit autrement, on est marié ou on ne l'est pas. On s'est engagé ou on ne s'est pas engagé. Une union de fait n'est pas une union de droit. Une cohabitation n'est pas un mariage. Une union libre n'est pas un engagement. Il ne faut pas tout confondre. L'échange des consentements est bien un engagement de la volonté. D'une certaine manière, le fiancé dit à sa fiancée et devient époux par le fait même, « Puisque je t'ai choisi après mûre réflexion et que je veux t'aimer toute ma vie, alors je m'engage avec toi, je le dis publiquement, je me marie avec toi et je ne reviendrai pas sur ma parole. » Et la fiancée en fait tout autant. En d'autres termes, je ne fais pas semblant de me marier en vivant sous le même toit, sans m'engager, sans vouloir m'engager, ou en voulant m'engager, mais sans m'engager dans les faits. Ce genre d'histoire finit souvent mal et fait mal. S'il vous plaît, évitons aux jeunes d'aujourd'hui ce genre d'expérience qui fait mal et qui fait mal au prochain. Deuxièmement, après le mariage qui est un fait, c'est un fait qui se construit. Une fois que les époux ont échangé leur consentement et qu'ils sont réellement mariés parce qu'ils n'ont pas mis d'obstacle intérieur à ce consentement, il reste que l'amour doit être consolidé, ravivé, vécu jour après jour. Se marier, c'est bien et c'est même très bien, mais ça ne suffit pas. C'est un bon début. Mais il faut transformer l'essai, si je puis dire. Ainsi de même qu'un diacre devient prêtre le jour de son ordination presbytérale, mais que chaque jour de sa vie, il doit consolider, raviver, tendre plus étroitement son lien au Christ prêtre et pasteur, de même les époux n'ont pas fini de construire leur couple, leur mariage, leur amour mutuel, le jour de leur mariage. Une mère de famille me disait récemment, « Monsieur l'abbé, s'il vous plaît, dites aux fiancés qu'il y a trois choses sur lesquelles les époux doivent veiller. Veiller sur l'épouse, veiller sur l'époux et veiller sur leur couple. » Cette dame avait raison, un couple se construit. L'amour se construit. Les époux ne partent pas avec un paquet de grâce dans leur sac le jour de leur mariage, à charge pour eux qu'il en reste encore un petit peu à la fin du voyage. Le Seigneur s'engage avec eux, il est avec eux chaque jour de leur vie, il leur donne sa grâce, il les aidera toujours, mais à eux, les époux, de rester avec le Seigneur et de lui rester fidèles. C'est ça la problématique. Sinon, ils vont expérimenter leur indigence et connaître des échecs cuisants. Ainsi, il faut prendre soin de son conjoint, il faut prendre soin de son couple. La grâce du mariage est donnée pour cela, précisément. Il s'agit de devenir attentif toujours plus aux besoins de son conjoint, de servir son conjoint. Je vous livre ici les conseils qu'un moine de Fongombeau avait écrits à une de mes tantes, oblate de son abbaye. Ce moine et sans doute aujourd'hui dans la contemplation de Dieu, en tout cas il a rendu son âme au Seigneur. Écoutez bien, c'est magnifique. Non seulement pour persévérer fidèlement, mais pour grandir tous les jours en amour, en bonheur, en sainteté, trois résolutions à ne jamais oublier. Premièrement, ne jamais omettre avant le coucher une brève prière ensemble, ne serait-ce que d'une ou deux minutes, tous les soirs. C'est un moine bénédictin qui dit une ou deux minutes tous les soirs. On doit pouvoir y arriver avec le sacrement du mariage. Je pense qu'on peut y arriver. Deuxièmement, ne jamais s'endormir fâché. Ça n'arrive jamais, ça. S'il y avait eu dans la journée ou la soirée quelque incident, dispute ou maladresse, ce qui n'arrive jamais, bien sûr. Mais si jamais ça arrivait, à chacun de faire le premier pas pour demander pardon. Pas forcément par des paroles. Il y a des gestes ou des regards qui sont parfois plus simples et plus expressifs que des mots. Et ou pour pardonner ou excuser. Troisièmement, ne pas avoir peur d'être trop heureux. Ne pas avoir peur d'être trop heureux. Du vrai bonheur que Dieu veut pour ses enfants. De se témoigner, de se donner ce bonheur par toujours plus de dévouement, de délicatesse et de tendresse. Moine bénédictin, il faut entendre. Extraordinaire. Troisièmement, nous sommes tous des serviteurs du sacrement du mariage. Les prêtres, bien entendu, doivent préparer au mieux les fiancés au sacrement du mariage. Ils doivent se faire aider par des laïcs compétents et dévoués, en particulier dans le domaine de la régulation naturelle des naissances. Mais chaque fidèle, chaque baptisé, doit se sentir personnellement responsable du sacrement du mariage. À titre d'exemple, un jeune couple marié peut-il se désintéresser de leurs amis qui sont encore célibataires? La réponse, c'est non. Ils n'ont pas le droit de se refermer sur leur petit bonheur égoïste. Ils doivent inviter leurs amis célibataires, tenter de provoquer des rencontres, surtout en ces temps difficiles où les restrictions de nos libertés de mouvement par temps dit d'épidémie rendent les rencontres de plus en plus complexes. Les personnes célibataires souffrent actuellement encore plus de la solitude, plus que d'habitude. Alors prenons conscience de cela et luttons dans la mesure de nos moyens contre cet état de fait et aidons les célibataires à se rencontrer les uns les autres. Il faut servir les personnes célibataires en les encourageant à la patience aussi, à la recherche patiente de leur conjoint, à l'abandon, à la providence aimante de Dieu qui ne les oublie pas, à se mettre en mouvement pour chercher leur futur conjoint. Il faut aussi les servir par nos conseils avisés et prudents. Si nous pensons que tel homme n'est pas fait pour vivre avec telle femme et qu'ils courent ensemble à la catastrophe, il faut avoir le courage et la charité de parler, de conseiller, de mettre en garde avec douceur, avec charité, mais avec clarté. De la même façon, il faut servir la croissance dans l'amour des personnes mariées. Nous, prêtres, nous essayons de servir le sacrement du mariage aussi. Il existe, à ma connaissance, de nombreuses propositions au sein de notre communauté Saint-Georges. J'ai dénombré 6 groupes d'Homus Christiani, peut-être qu'il y en a encore plus, je crois qu'il y en a 6, 2 autres groupes d'un autre genre et un groupe pour les jeunes couples. Il y a aussi la sollicitude de l'Église Notre Mère pour ses enfants atteints par le divorce à travers les services de l'officialité, à travers la possibilité d'interroger la validité sacramentelle d'un mariage, à travers des groupes de soutien fraternel pour porter la croix des uns des autres, le fardeau des uns des autres. C'est la raison d'être de notre groupe Saint-Joseph, en particulier ici dans la communauté. Mais nous pouvons encore être inventifs et répondre à d'autres besoins. À vous, fidèles laïcs ici présents, d'écouter l'Esprit Saint, et de communiquer avec vos pasteurs, prêtres, afin de trouver les meilleures manières d'aider les jeunes d'aujourd'hui, de vous aider, d'aider les personnes mariées, les personnes en difficulté. Il faut écouter l'Esprit Saint et communiquer aux pasteurs vos besoins. La Vierge Marie a été attentive aux besoins de ses époux à Cana de Galilée. Ils n'avaient plus de vin à offrir à leurs amis et convives. La Vierge Marie n'a pas fait comme si elle n'avait pas vu. Elle a vu et elle a intercédé. Elle a vu et elle a agi. Elle a vu et elle a obtenu. Que la Vierge Marie intercède pour nous tous, qu'elle nous obtienne, que le mariage soit mieux considéré et préparé aujourd'hui dans l'Église, mieux vécu et accompagné, mieux servi pour la gloire de Dieu et le salut des personnes, pour le bonheur des époux, ici-bas et pour l'éternité. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.